Bonjour et bienvenue à Regard Croisé avec Fulgence Blair
et Arlette Farah.
C'est l'émission du milieu de la semaine, c'est le mercredi 7 octobre 2020, bien sûr, je ne veux pas dire 2021. Bonjour Arlette.
Bonjour Fulgence.
Comment vas-tu?
Ça va bien, merci.
Oui, moi aussi je vais bien parce que je n'ai pas été mouillé.
Aujourd'hui, on a deux invités.
On a deux invités, ouais.
Quelle richesse d'émission.
Voilà, un invité en première partie d'émission et notre invité en...
Voilà, première demi-heure, donc c'est Gilbert David pour son ouvrage « Le théâtre contemporain de 1945 à 2015 ». C'est un essai de synthèse historique et socio-esthétique. Un collectif avec la collaboration de Hervé Gay, Hélène Jacques et Yves Jubainville, voilà. Donc, plein de choses à apprendre.
Plein de choses à apprendre.
Oui, tout à fait.
À tout à l'heure, après la première pièce musicale, moi, on va recevoir en deuxième partie d'émission Elisabeth Lisson, qui est la directrice des communications et du marketing du MIS, du MIS. Voilà, j'ai planté le décor la dernière fois, oui. Il y a deux jours.
Et là, on va pouvoir parler avec elle.
Voilà, là, on va en musique maintenant.
Alors, on écoute Bon Enfant, qui nous interprète Liste Noire.
Que toi, petit mignon, le rendu au top de ta liste noire. Quand je fais des signes, tu me vois pas. Quand je croise en rue, tu regardes en bas. Les bosses se grandent.
Alors, Monsieur Gilbert David, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir, oui, vous avez raison.
Bonsoir.
Nous sommes plus vers 17h. Donc, comme je le disais, vous avez été professeur, vous avez enseigné la littérature et le théâtre. Vous êtes critique littéraire.
Oui, pendant 40 ans.
Vous êtes essayiste, donc on va en parler de cet essai. Et puis, je vais vous dire une bonne chose. En lisant cet essai, je me suis dit que j'allais commencer mon entrevue avec la question qui le débute, cet essai. Quelles orientations artistiques emprunte le théâtre au Québec entre 1945 et 2015?
Écoutez, à chaque moment de notre vie théâtrale,
oui.
il y a la nécessité de faire une sorte de bilan et d'essayer de comprendre quelles sont les orientations qui ont modulé la vie théâtrale au Québec. Alors, c'est un travail qui, je pense, est nécessaire pour mettre en perspective la réalité théâtrale la plus immédiate.
Oui.
C'est-à-dire, un recul historique est toujours nécessaire pour comprendre comment la vie théâtrale d'aujourd'hui est quand même redevable de son histoire.
Tout ce qui s'est passé avant, oui, bien sûr.
Et donc, ça me demande une recherche considérable pour rassembler des matériaux, pour rassembler le plus d'éléments aptes à éclairer la réalité historique et ce que nous appelons, nous, socio-esthétique au fil du temps. Donc, entre 1945 et 2015.
Oui. Alors, c'est un essai qui est très important, mais qui est très intéressant, en tout cas. Moi, j'étais passionnée de théâtre, donc j'ai appris plein de choses là-dessus.
Ouais, j'espère
difficile,
bien.
Difficile d'en parler en si peu de temps, de tout. Mais il y avait quelque chose... on en avait parlé un petit peu ensemble. On avait discuté du temps. Vous disiez qu'au début, au théâtre, on n'avait pas beaucoup de temps pour voir les pièces de théâtre.
Ben non, c'est-à-dire la préparation des spectacles était très limitée puisque le régime dominant
oui.
dans les années 30, 40 et avant, la fiche changeait toutes les semaines. Et donc les gens répétaient un spectacle le jour pour la production de la semaine suivante. Et les spectacles changeaient de semaine en semaine. Et évidemment, quand vous produisez à ce rythme, la qualité ne peut pas être au rendez-vous.
Oui.
Et ce qui a changé, c'est à partir des années d'après-guerre, d'après la Seconde Guerre, c'est que des gens, d'abord un précurseur qui est entré dans Genève, qui, avec sa propre compagnie, donc, mais qui, malheureusement, n'a pas survécu, mais dès la fondation du Théâtre du Nouveau Monde en 1951, on a vu apparaître une production théâtrale qui donnait une importance fondamentale à la nécessité de préparer les spectacles et donc de répéter donc ce que j'appelle la révolution du temps.
Mmh.
Alors, cela est fondamental pour arriver à des productions qui aient un certain niveau de qualité artistique. Et donc, ça s'est perpétué. Et dans les années 70-80, on a eu une deuxième révolution du temps, cette fois par des jeunes compagnies qui ont décidé, à leur tour, de dire, nous avons besoin de temps pour préparer nos spectacles. Et donc, on ne produira pas à la chaîne comme, enfin, à cette époque-là, ils contestaient ce qu'on appelait le théâtre, disons, bourgeois, appelons-le comme ça pour faire vite. Et donc, ils voulaient établir un autre régime de temporalité, de préparation des productions. Alors, ces compagnies ont Carbone 14, plus tard... bien d'autres ont voulu se donner du temps pour préparer des créations. Et une fois qu'une création était aboutie, ben, ça leur permettait de la diffuser pendant plusieurs années, y compris à l'échelle internationale. Et donc, Robert Lévesque, excusez-moi, Robert Lepage,
oui.
est l'exemple type,
oui, c'est vrai,
de quelqu'un qui a voulu, en tout cas, installer un work in progress. C'est-à-dire, une production pouvait avoir plusieurs versions dans le temps.
D'accord.
Et donc, une fois que ces productions étaient meilleures, ou encore plus abouties, ben, elles avaient une capacité de se diffuser au-delà du territoire québécois, parce que faut bien voir que au Québec, là, le public est restreint. Donc, si on veut, pour des compagnies un peu plus...
Oui, un peu plus de notoriété, il faut aller voir dehors, quoi. Il faut aller voir ailleurs aussi.
On n'a pas le choix. Mmh. Il faut avoir une diffusion à l'étranger pour rejoindre d'autres publics, pour vivre, pour que les compagnies puissent avoir une vie à long terme. Alors que localement, bien sûr, il y a des compagnies qui ont, bien sûr, qui ont un public et tout ça, mais pour les compagnies émergentes, les compagnies qui veulent explorer d'autres langages,
Qu'ils puissent se vendre.
Ils n'ont pas d'autre choix que de s'ouvrir vers des marchés à l'extérieur du Québec.
Alors, je voudrais revenir, enfin, on va se faire une petite pause musicale, mais juste avant, je vais vous poser ma question à laquelle vous répondrez après cette musique. On va parler de téléthéâtre, parce que ça n'a pas toujours été bon, mais au début, ça a quand même contribué à la démocratisation du théâtre général, et québécois en particulier, parce qu'il est rentré dans les foyers. Alors, vous nous en parlez dans un instant, on revient tout de suite après ça.
D'accord.
Nada. Is it done in a day? First you give me so much and right away. Why am I the one who leaves? Why am I the one who leaves? On my way out a little tiny seed. Feeling so lost and mine up afraid. Coming to dust and nothing's it protected. Feelings of loss and am I afraid if we are done? Nada, never back again. Never ever ever coming back again. Nada, never back again. Ooh, pasa pasa pasa. Nada, never back again. Never ever ever coming back again. Nada, never back again. Ooh, pasa pasa pasa. Nada. Tell me why you hurting. Hands on the floor. Wait, why is it just screening? Hiding in showers. It must be for something. If not for love. Nada, never back again. Never ever ever coming back again. Nada, never back again. Ooh, pasa pasa pasa. Nada, never back again. Never ever ever coming back again. Nada, never back again. Ooh, pasa pasa pasa. Nada, never back again. Never ever ever coming back again. Nada, never back again. Ooh, pasa pasa pasa. Nada, never back again. Never ever ever coming back again. Nada, never back again. Ooh, pasa pasa pasa. Nada, never back again. Passa, passa,
Alors nous venons d'entendre Christine and the Queen qui nous chantait Nada. Donc Gilbert David, revenons au téléthéâtre.
Oui.
Et au départ, au bon effet du théâtre à la télé, est-ce que ça a quand même apporté au départ des bonnes choses, puisque c'est vrai que ça l'a fait rentrer dans les foyers, qui n'allaient pas
absolument
spécialement au théâtre.
Oui, mais alors, écoutez, ça a été une démarche qui a permis de faire rayonner un nombre considérable d'œuvres du patrimoine mondial du théâtre, hein, d'une part, et aussi d'œuvres du CRU, là, Marcel Dubé notamment. Bon, alors, la télé d'État, hein, on parle de Radio-Canada, a contribué beaucoup à diffuser une culture théâtrale.
Ils l'ont fait quand même pas mal d'années.
Oh oui, bien sûr. Là, on parle de l'époque classique, là, entre la Fondation de Radio-Canada, qui avait des téléromans aussi très populaires,
oui.
La famille Proulx, Le Survenant et j'en passe. Mais il y avait, à partir des années 60, hein, les Beaux Dimanches, où il y avait souvent des productions théâtrales présentées au grand public. Et je pense que ça a contribué à ouvrir l'esprit de beaucoup de gens. Et donc, c'était une dimension, en guillemets, pédagogique, là.
Oui.
C'est-à-dire d'ouvrir le public à d'autres œuvres du patrimoine mondial.
Ça a été une bonne chose.
Absolument.
Au début, ça a été une bonne chose. Bon, après, il y a
oui.
eu des problèmes, des petits soucis, mais c'était quand même... Au départ, c'était une bonne chose pour tout le monde, pour faire découvrir un petit peu plus loin le théâtre qu'à ceux
Absolument.
Qui étaient...
Absolument. D'ouvrir la perception qu'avaient les gens de ce qu'est la culture occidentale, appelons-la comme ça. Et donc, non, ça a contribué beaucoup, je crois, à ouvrir les esprits dans un contexte où on vivait quand même une grande mutation sur le plan politique et
Bien
culturel.
Sûr.
Tout ça a été très important.
Alors, pendant cette époque que vous nous décrivez, il y a aussi eu la mise en place du Conseil des arts et des lettres du Québec.
Mais là, c'est plus tardif, ça. On parle des années 90.
Oui. Mais c'est dans le cadre de ce que vous avez écrit, je veux dire.
Oui, mais notre façon d'entrevoir l'établissement d'un système théâtral, donc d'une institution théâtrale, hein, qui fait que l'ensemble des producteurs et des organismes qui contribuent à façonner la vie théâtrale, que ce soit l'Union des artistes, le Centre des auteurs dramatiques, et j'en passe, il y a plein d'organismes maintenant qui contribuent à façonner la vie théâtrale. Évidemment, l'État a un rôle primordial.
Oui.
Parce que c'est l'État qui finance l'activité théâtrale par des subventions. Alors, évidemment...
Les fameuses subventions.
Pardon?
J'ai dit ces fameuses subventions.
Eh oui. Et là, le théâtre reste encore malheureusement sous-financé par les diverses instances gouvernementales, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral. Et jusqu'à un certain point, le théâtre reste un peu contrôlé. Parce que le théâtre a toujours été un domaine dangereux pour le pouvoir. À savoir que s'il y a un rapport direct entre des émetteurs, donc de la scène, et un public vivant. Et depuis toujours, le théâtre a été conçu comme un lieu potentiellement dangereux.
Oui, je comprends.
Oui, et possiblement subversif, même si à l'échelle de la culture de Nars. Écoutez, le théâtre est minuscule, hein. C'est une simple salle. Mais on a qu'à voir l'impact qu'a eu les Belles-Sœurs.
Oui.
En 68.
Oui.
C'était dans une salle au Rideau Vert qui comprend 400 places. Et là, ça a eu une répercussion énorme sur l'ensemble de la société. Donc, le théâtre est toujours une zone dangereuse pour le pouvoir. Bon, alors, je ne sais pas si aujourd'hui, on est devant une telle conjoncture. Mais ce que je veux dire, c'est que le théâtre est un art subversif par nature.
Mais on en a besoin. On en a besoin.
Absolument. C'est un lieu où on met en question l'état des choses.
Oui.
Parce que c'est direct. Hein? Vous donnez la parole à quelqu'un, là. La personne est devant vous, là. Et là, vous pouvez pas ne pas la prendre en compte. Et moi, écoutez, tant qu'il y aura du théâtre, il y aura une démocratie et il y aura une vie sociale capable de se régénérer. Le théâtre est un ferment fondamental de nos sociétés.
C'est un besoin qu'on en a, même si aujourd'hui, il a besoin d'être soutenu et même encore plus
bien
que
sûr.
Soutenu.
Mais comme je vous dis, c'est pour ces raisons-là que le théâtre est pauvrement soutenu, parce qu'il reste toujours un danger pour le pouvoir. Et donc, on le garde un peu...
C'est une grosse discussion.
Il ne faut pas lui donner trop de ressources.
Oui, c'est vrai. Mais bon, on va terminer là-dessus parce que je voulais aussi vous parler du statut des comédiens. Mais bon.
Mais les comédiens, c'est sûr qu'ils sont les premières victimes de la situation actuelle.
Oui.
Mais c'est l'ensemble du milieu théâtral qui souffre profondément. Oui. On donne des aides ponctuelles pour sauver un peu les meubles, mais ce que je crois, c'est que c'est les fonds publics qui sont insuffisants pour soutenir la vie théâtrale.
C'est vrai. Et des grands et des petits et des tout petits.
Absolument. Et à mon avis, il faut que ce soit. Il faut aider même les théâtres émergents, parce que bon, les théâtres établis, ils ont d'autres moyens.
Oui.
Ils peuvent faire payer davantage leurs spectateurs.
C'est vrai aussi. Alors soutenons le théâtre émergent aussi. Bien écoutez.
Ah non, mais on a besoin d'aider les théâtres qui proposent des choses nouvelles. Et puis, donc, il faudrait qu'il y ait plus d'argent pour les compagnies émergentes. Ça,
voilà, alors on peut lire tout sur le théâtre dans votre ouvrage, Le théâtre contemporain de 1945 à 2015.
Ouais.
Alors, il y aurait plein de questions à vous poser, mais concentrez-vous sur cet essai. Pour tous ceux qui sont intéressés par le théâtre et puis pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont envie de connaître un petit peu plus.
Oui, je pense que ça peut aider les gens à préparer une sorte de vision globale de la réalité théâtrale d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir répondu.
C'était
un plaisir.
Vous-même.
Au revoir.
Au plaisir.
Chante pour moi, j'aimerais t'entendre. Faut taire les mots qu'on pourrait attendre. Rien de trop grand, rien d'éclatant. Rapproche-toi, tu pourras murmurer. T'as pas besoin de m'impressionner. Prends le temps qu'il faut, mais ne pense pas trop. Parle pas de nous à l'imparfait. Oublie tous les...
simplement. Simplement. Essaie de parler de la vraie vie à deux, du lit trop petit, des matins silencieux, des souvenirs qu'on ramasse avec le temps qui passe. Dis quelque chose que je ne sais pas encore, raconte-toi sans scène et sans décor. Si jamais tu pleures, ne regarde pas ailleurs. Parle pas de nous à l'imparfait. Oublie tous les mots qui sont trop parfaits. Parle pas de nous à l'imparfait. Oublie tous les mots qui sont trop parfaits. Parle pas de nous à l'imparfait. Oublie tous les simplement, simplement, simplement.
Alors, on vient d'écouter Jordan qui nous chantait simplement et restez avec nous pour la présentation de la deuxième demi-heure dans un instant.
Oui, la deuxième demi-heure, on va recevoir Elisabeth Liston qui va accueillir Triste et Communication du Marketing du MIS, qui est la maison de l'innovation sociale. On l'a pour toute la demi-heure et puis bon, on va savoir ce que c'est.
Bien.
Voilà, restez à l'écoute. On revient juste après la petite pause publicitaire.
Vous écoutez Regards croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas.
Deuxième partie de l'émission, tout de suite, on va aller en musique avant de recevoir notre invité avec Little Mix, Black Magic.
Just to help him see what he's been.
Little Mix Black Magic. Oh, ça fait bouger ça. Ça secoue les cocotiers. Voilà, alors, tout de suite, là, je crois qu'on a déjà un autre invité. Oui. Elisabeth Liston, directrice des communications du marketing du MIS, qui est la maison de l'innovation sociale. Bonjour Elisabeth.
Bonjour, monsieur Blanc.
Comment allez-vous?
Ça va bien vous-même?
Oui, on va bien, on va bien. On est en studio, on n'est pas sous la pluie, on va bien ici. Alors, merci d'abord d'avoir eu le temps de, voilà, d'être avec nous, même si on ne se voit pas d'être avec nous en studio, téléphoniquement parlant.
Oui, merci de m'avoir accueilli.
On est là pour ça. Et puis, pour parler un peu de de ces deux cohortes automne 2020, bien sûr. Et d'abord, ouais. Présentez-nous, pour ceux qui ne le savent pas. Moi, je suis allé plusieurs fois sur votre site là pour découvrir les choses. Qu'est-ce que c'est que le MIS, la Maison de l'Innovation Sociale?
Oui, donc on dit la MIS, c'est plus court que dire la Maison de l'Innovation Sociale. Alors, on est une jeune organisation sans but lucratif localisée à Montréal, ouais. Qui a été fondée en 2017, mais nos activités ont vraiment pris leur envol en 2018. Et on a comme mission de favoriser l'émergence et le développement d'un plus grand nombre et d'une plus grande diversité d'innovations sociales, donc à fort potentiel d'impact social et environnemental au Québec. Pour être un petit peu plus précise, nos activités et nos programmes sont principalement dans la recherche et le développement de solutions aux grands enjeux sociétaux qu'on vit aujourd'hui.
Oui.
Et dans le soutien aussi de projets qui sont encore dans leur phase d'amorçage. C'est en fait notre niche, hein, c'est notre marque distinctive à la niche. C'est vraiment d'accompagner des projets qui sont, on dit en anglais, early stage ou dans leur phase très précoce de développement, donc qui n'ont pas encore été déployés. Et après, je peux peut-être préciser encore plus, c'est que...
Oui, allez-y.
L'innovation sociale, c'est pas nouveau, hein. Il y a un vaste écosystème d'innovation sociale au Québec qui est très dynamique, avec une foule d'acteurs tout aussi dynamiques l'un et l'autre. Mais on peut penser, par exemple, il y a des accélérateurs d'entreprises sociales, il y a des investisseurs d'impact, il y a des philanthropes, des fondations, des hubs, des organisateurs de challenges d'innovation. Mais on avait constaté qu'il y avait un vide pour le soutien early stage ou le soutien de projet dans leur phase très précoce de développement. Puis la MIS a vu le jour parce qu'on voulait combler ce vide-là. Donc, ce qu'on dit, on aime dire à la MIS là, qu'on œuvre à éliminer les obstacles qui se dressent entre une idée à impact social et environnemental et sa mise en œuvre. Et pourquoi? Ben, parce qu'on a constaté que les projets d'innovation sociale échouent souvent dès la ligne de départ. Soit en raison d'un manque de connaissances ou d'accès à des ressources nécessaires pour franchir le seuil entre une idée qui est dans le tiroir de quelqu'un,
oui.
Ou d'un inventeur et sa réalisation. Si je fais le parallèle avec une entrepreneur qui part son business ou son entreprise,
oui.
La personne va devoir consacrer temps, argent, des efforts acharnés, ses connaissances, son talent, sa persévérance. Elle va devoir s'entourer de gens qui croient en son projet pour le déployer.
Oui.
Et avant que son projet prenne vraiment son envol, ça va prendre du temps. Mais quand on parle d'innovateurs sociaux qui veulent mettre en place des solutions aux enjeux sociaux et environnementaux de nos jours, c'est encore plus long.
Mm-hmm.
Donc, on est là pour nous les accompagner et les aider.
Oui. Et quels sont vos critères de sélection?
Alors, on a différentes... je pense que vous parlez du programme de l'incubateur civique. Effectivement, on a plusieurs programmes.
Oui.
Mais le programme d'incubateur civique, c'est un parcours d'accompagnement qui dure 5 mois, qui est offert gratuitement à toute personne.
Gratuitement?
Oui, gratuitement. Alors, c'est vraiment, ça vaut à peu près 15 000 $ la valeur, parce qu'on a plusieurs formateurs qui viennent, on a des experts, on a des intervenants d'écosystème qui viennent rencontrer les membres de la cohorte pendant 5 mois à raison de 7 heures par semaine. Cette fois-ci, pour les deux cohortes de la cohorte de l'automne et la cohorte de l'hiver,
oui.
Ça va être entièrement en ligne en raison de la pandémie, mais si on voit que la situation s'améliore, on va peut-être basculer en format hybride parce que normalement, c'est en présentiel et en distanciel.
Oui.
Et donc, c'est un parcours d'accompagnement de 5 mois qui est offert à toute personne qui veut porter un projet, une solution, qui a une idée en tête d'une solution pour répondre à un enjeu social et environnemental. Ça peut être porté par des citoyens qui sont engagés, un collectif, un OBNL, un entrepreneur au sein d'une organisation qui veut démarrer un nouveau projet, mais qui et dont les retombées de la solution va profiter à son milieu. au milieu de vie. Donc, et les critères, donc, il faut dire aussi qu'on a, on a un appel à projet en cours qui prend fin le 15 novembre.
Le 15 novembre, des... date limite d'inscription.
Oui, la date limite d'inscription, de soumission, c'est le 15 novembre. On va prendre jusqu'à 10 projets.
Oui.
Chaque projet doit être porté par deux porteurs. On recommande vivement que ce soit travailler en binôme parce que l'expérience démontre que le parcours est beaucoup plus profitable à la fois pour le projet et pour les porteurs.
C'est-à-dire que moi, tout seul, je ne peux pas déposer un projet.
C'est pas un critère obligatoire, mais on le recommande. Parce que okay. si Jean se lance dans son idée, dans le développement de son projet à impact social, il va en profiter beaucoup plus s'il y a une ou un partenaire qui va pouvoir lui dialoguer avec vous pour pouvoir voir vos angles morts, pour pouvoir mieux échanger sur les contenus, pour essayer d'aller chercher des parties prenantes.
Oui.
C'est plus facile quand on n'est pas en solitaire.
Oui.
Donc, c'est ça. En termes de critères de sélection, on veut surtout que ce soit des gens qui sont motivés à s'investir parce que les places sont limitées. Donc, on prend les personnes les plus motivées. Les personnes aussi qui veulent démarrer un projet qui vont être déployées en premier lieu sur le territoire de l'agglomération de Montréal. On recommande aussi, on cherche aussi des projets innovants. Donc, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a plein de belles initiatives sociales et environnementales qui existent. À la Maison d'innovation sociale, on ne cherche pas nécessairement à répliquer des solutions qui sont déjà existantes. On cherche plutôt à travailler sur les nouvelles solutions ou l'amélioration d'une solution existante qui répond encore mieux à la problématique sociale ou environnementale.
Oui.
Et puis, le dernier point, c'est qu'on cherche aussi des projets qui ont un impact potentiel d'impact systémique. Alors, je m'explique. En fait, ça signifie que l'innovation sociale, en fait, va adresser différents impacts d'une même problématique. Elle va aller aux différentes sources du problème, établir sur les différentes leviers d'opportunité pour générer un impact maximal de transformation. Mm-hmm. Je peux vous donner peut-être quelques exemples de projets. Mais avant toute chose, juste pour finir sur l'appel à projet.
Allez-y. Oui.
Non, mais faut m'interrompre hein, parce que j'ai tendance.
Allez-y. On va faire une petite pause musicale, mais allez-y, je vous laisse la parole quelques secondes encore, allez-y.
Oui, alors juste pour les thématiques qu'on recherche pour celles et ceux qui nous écoutent, étant donné qu'on a tous vécu la pandémie cette année, il y a beaucoup d'initiatives il y a beaucoup de problèmes qui ont été exacerbés. C'est pour ça que la thématique de l'appel à projet cette année, c'est de la résilience.
Oui.
En contexte de pandémie, à la transition sociale et écologique.
Okay.
Alors, ce qu'on veut, c'est vraiment des projets qui tapent sur des thématiques comme l'inclusion, la mixité sociale, la lutte au racisme systémique, la lutte à la pauvreté, aux inégalités, les besoins de base des individus.
C'est très riche, c'est très, très, très riche, c'est très riche, c'est très riche et très répandu. On va faire une petite pause musicale pour vous permettre de souffler un peu aussi.
Oui.
Et puis, on revient pour la deuxième partie de notre conversation. On va musique avec Chloé Sainte-Marie et Joséphine Bacon. Je sais que tu sais.
Wenin, qui suis-je? Apu ne stoap min. Tu ne me connais pas.
Apu tsentemen tat nuken.
Tu ne sais pas mes légendes.
Apu ne stoap etemen te pachemun.
Tu ne connais pas mon histoire. Que tu as créé
tu veux être maître de mon esprit, qui suis-je? Tu ne me connais pas, tu m'appelles montagnier, tu m'appelles cri, tu m'appelles tête de boule, tu m'appelles algonquin, tu m'appelles mascapi, tu m'appelles Mac, tu m'appelles Huron, tu m'appelles Iroquois, tu me regardes pas, tu ne me vois pas, tu ne m'entends.
N'attends pas que je me fâche, telle une tornade. N'attends pas que je me libère de mes chaînes.
Tu ne me regardes pas, tu ne me vois pas, tu ne m'entends pas, tu ne me
autochtones du pays. C'est Chloé Sainte-Marie et sa complice, son amie Joséphine Bacon. Je sais que tu sais. Alors, Elisabeth ?
Oui.
Voilà. Oui, j'espère que vous avez apprécié cette chanson.
Beaucoup.
Oui. Alors, quand vous parlez de gratuité, quels sont les partenaires ou bien les donneurs, les gens au gros cœur qui sont derrière ce financement? Quels sont ceux qui sont là pour supporter ce gros programme? Alors, que vous donnez gratuitement aux futurs entrepreneurs?
Exact. Alors, il y a deux choses. D'abord, la NIS est financée majoritairement par, et depuis ses débuts, par la Fondation Mirella,
oui,
et Lino Saputo, ainsi que la Fondation Mécano. Donc, ces deux fondations-là sont nos principaux bailleurs de fonds,
oui,
et nous permettent de soutenir toutes nos activités en recherche et développement social, en partenariat avec des chercheurs, puis les membres de l'écosystème.
Oui.
Mais la MIS finance aussi ses activités par des revenus autonomes qu'on génère par notre propre offre de services. Donc, par exemple, pour l'incubateur civique et les cohortes de l'incubateur civique pour l'année 2020-2021,
oui,
on a trouvé des formidables partenaires financiers dans la ville de Montréal, BMO, et les deux fondations qui sont nos principaux bailleurs ont rajouté aussi des sous. Donc, c'est ce qui permet d'offrir gratuitement ce parcours-là, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de freins pour les innovateurs sociaux. Donc, si on peut en plus offrir un parcours d'accompagnement qui ne coûte rien, c'est encore, c'est de mettre nos chances de côté que le projet va se réaliser. Et cette année aussi, on a ajouté une bourse de soutien de 750 $ en su pour chacun des porteurs. Donc, s'il y a deux porteurs sans projet, les deux vont en recevoir une. Et on essaye aussi d'aller chercher des partenaires financiers, par exemple avec Logic, qui travaillent, qui soutiennent les jeunes dans la francophonie. Donc, si les porteurs de projets qui déposent à la NIS pour se joindre à la cohorte correspondent également aux critères de Logique, alors ils vont pouvoir se voir offrir un financement de 1 000 $ en plus. Donc, on fait vraiment des efforts.
De très beaux gestes.
Voilà.
Quand vous avez approché tous ces bailleurs de fonds, ces donneurs-là, ces bailleurs de fonds, ça a été facile de les convaincre? Ils se sont dit, ouais, c'est les gens de projets qu'on attend, ou bien vous avez vraiment... vous avez tordu les bras là-bas pour...
Non, pas du tout. En fait, nos deux principaux bailleurs de fonds, la Fondation Mirella et Lino Saputo, étaient un des instigateurs de la NIS.
Oui.
Ils reconnaissent, en fait, l'innovation sociale comme un levier déterminant là, pour vraiment accélérer la transformation sociale. On sait là, que les grands enjeux complexes auxquels on fait face, ça fait peur, c'est déroutant. Ne savent plus comment approcher un problème. Hein. Des fois, l'évolution d'un problème va tellement vite que les solutions n'arrivent pas assez vite. Et plutôt que de reculer face à ces problèmes-là, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre les conditions gagnantes pour accélérer la mise en place des solutions. Donc, non, ça, au contraire, et même si on regarde BMO, ses efforts et la Ville de Montréal, dans leur plan stratégique, ils ont aussi, je pense que tout le monde, c'est la beauté aussi de cette cohorte-là, c'est qu'on a été capable d'aller chercher un partenaire du privé comme BMO, un partenaire du public comme la Ville de Montréal.
Comme la Ville de Montréal, oui.
Et qui, ensemble, viennent soutenir une multitude de projets à une place sociale.
Profiter de la tribune pour leur dire merci, hein, de leur collaboration.
Tout à fait. On vous remercie et on espère qu'il y aura d'autres partenaires qui vont lever la main aussi parce qu'au fond, ça profite à l'ensemble de la société. Et les gens, les innovateurs sociaux qui participent à l'incubateur civique de l'année, il faut les applaudir parce que c'est vraiment des acteurs de changement qui sont visionnaires, qui passent à l'action et ils méritent qu'on les soutienne en fait. Parce que c'est pas facile.
C'est pas facile, oui. Et puis c'est un très beau projet, vous faites un très beau travail. Moi, au début, je me faisais pas confiance, je voulais pas dire la mise. J'ai dit non, faut pas qu'on me tape sur les doigts. Quand vous avez dit la mise, je peux me permettre maintenant. Maintenant, pour ceux qui nous écoutent, qui aimeraient bien se lancer là-dedans, vous contacter, quelles sont vos coordonnées? Comment on peut vous joindre?
Alors, la première chose,
on tire tout doucement vers la fin de l'entrevue.
OK. Alors, pour la première chose qu'il faut faire, c'est se rappeler du 15 novembre, date limite. Deuxième chose, aller sur le site de la NIS, donc NIS.Québec, et sélectionner l'appel à projet. Et celles et ceux qui veulent en apprendre davantage peuvent s'inscrire à des séances d'information. On en a deux, donc mardi le 13 octobre et jeudi le 22 octobre, de midi à 13h.
Oui.
Et on a aussi une clinique d'accompagnement pour ceux qui ont besoin d'aide pour remplir leur formulaire puis mettre leur chance de côté. Donc ça, c'est le 10 novembre. Donc, NIS.Québec, n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler, à participer aux séances d'information. Et je dis une dernière chose, parce qu'on n'a pas eu le temps de donner des exemples concrets de projets dans la section actualité.
Ça va, vous avez beaucoup dit d'ailleurs, beaucoup d'informations. Voilà.
On donne beaucoup, beaucoup de témoignages. Puis demain, on va dévoiler une belle vidéo qui donne la parole à des projets qui ont été déjà étudiés.
Merci beaucoup, Elisabeth Liston, directrice des communications et du marketing de ce beau travail que vous faites. Merci de votre temps aussi. Et puis, voilà, je vous dis bon vent. Oui, à la prochaine.
Merci. Au revoir.
Scoop ce matin, la relation amoureuse de l'artiste internationale Blanche Bailly, surnommée la Queen Mimba, prend fin. Alors, beaucoup de questions se posent sur le pourquoi et comment, et nous avons tous les détails ce matin. Chers auditeurs, prenez place car la nourriture est très chaude.
Who else? Blanche, on est où? Où?
be speak. Thought I was your cheek. I was there for real, but you closed me like a deal. I say, man, no be speak. Thought I was your cheek. I was there for you, but you closed me like a deal.
Mes respects.
Ok.
Voilà, il se laisse approcher par quelqu'un qui a plusieurs femmes, plusieurs maîtresses, plusieurs gourous, comme on dit.
D'accord.
Elle a du respect pour lui, mais pas elle. Quoi.
Blanche Bailly. Elle ne rentrera pas dans le cadre.
Voilà, elle ne veut pas rentrer dans le cadre. Arlette, on est à la fin de l'émission.
Oui, hein. Alors, mais merci Gilbert David qui était là en première moitié de l'émission.
Oui.
Merci à madame.
Elisabeth Liston, la directrice de communication et du marketing de la MIS, la Maison de l'Innovation Sociale.
Oui, merci Maurice Bolduc.
Maurice.
Pour ton aide.
Merci à toi, ta collaboration.
Et tous.
Oui, se voit demain.
Bien sûr, on se voit demain, Fulgence.
Et puis n'oubliez pas, les Love Tours, l'émission est rediffusée du mardi à samedi à 5h du matin.
Voilà. Ou pour les couches tard.
Pour les couches tard.
Très tard. Oh. Allez, à bientôt à tous, à demain.
Prenez soin de vous.
Au revoir.
Ciao.